Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Nous sommes là pour présenter la dernière parution de Gregory Mackay qui s'intitule Anders et la montagne. Et face à moi, donc, Gregory, bonjour.
Bonjour.
Gregory, à côté, Gauthier Ducatte, bonjour.
Bonjour.
Et Ismo pour nous accompagner pour l'enregistrement, bonjour.
Bonjour.
Alors, Gregory Mackay, vous présentez actuellement le dernier ouvrage qui s'intitule Anders et la montagne. On peut définir peut-être ce personnage, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un écureuil? Comment peut-on le percevoir?
I've been asked that a lot recently. It's not described implicitly in the book, and I've had a lot of kids.
Alors, c'est une question qu'on m'a posée à de nombreuses reprises, notamment des enfants qui m'ont demandé mais qu'est-ce que c'est que ce chat? Et en réalité, c'est bien un écureuil. J'ai commencé à travailler sur ce livre lorsque j'étais en Floride. Et en Floride, il y a beaucoup d'écureuils. Je me suis mis à les dessiner et ça rentrait parfaitement dans le cadre de ce que je voulais écrire.
Grégory, comment peut-on créer un personnage de bande dessinée avec cette typologie graphique? Qu'est-ce qui fait que, bon, un personnage nécessite des yeux, une bouche, un nez, et après, on a une totale liberté du trait d'un personnage?
I like to make the character as simple as possible, so the fewest number of lines. And the idea there is to make it as visually minimal as possible, so there's no mouths.
Alors je cherche à faire en sorte que ça soit le plus simple possible, avec le moins de lignes possible. Donc peut-être il n'y a pas de bouche dessinée ou autre chose comme ça, mais je fais en sorte que on puisse reconnaître l'animal à travers ce personnage et lui donner une personnalité propre afin de pouvoir au mieux l'identifier.
Alors Anders, quel est ce personnage et qu'est-ce qu'il véhicule? Quel est son regard?
Well, Anders is a kid who goes to school and he has holidays like we all do. And instead of, you know, studying and working for over the holiday, he will go on adventures with his friends. And he's kind of like the kid at school who I.
Alors Anders, c'est un petit garçon qui va à l'école, comme la plupart des petits garçons, et c'est en fait le petit garçon que j'aurais toujours voulu être. Donc il va à l'école et pendant les vacances, et il joue avec ses amis. Et à travers ce personnage, il y a des valeurs d'ouverture, de respect, de tolérance qui sont importantes pour moi.
On reviendra un peu sur ce personnage et ce qu'il véhicule, ce qu'il représente aux yeux de Grégory. Par contre, Gauthier, toi, ton sentiment aussi, cet amour pour ces ouvrages de Anders, ça t'a aussi touché? C'est peut-être aussi la simplicité du trait qui t'a attiré?
En fait, avant même que Anders existe, on a commencé à travailler ensemble avec Grégory. Vu que je suis son premier éditeur, moi j'ai découvert en fait quand il faisait des fanzines, un peu par hasard. Et c'est marrant parce qu'en fait souvent en fait on nous pose la question. Zo Uchikuchi est quand même connu pour son catalogue plutôt tourné vers les adultes avec des considérations tournées vers les sciences humaines comme politique, histoire, etc. En fait moi ce que j'aime c'est le côté humaniste des histoires d'Anders. Il y a un arrière-plan social qui est très très important. On a des personnages en fait parmi les amis d'Anders qui viennent de familles monoparentales, de familles homoparentales. Il y a des personnages handicapés. Ça fait partie de l'histoire. C'est jamais un sujet entre les enfants. Ce qui est important pour les enfants en fait, c'est de préserver leur amitié, de surmonter ses peurs et d'aller à la découverte du monde qui les entoure. Et moi, c'est cette vision de l'enfance en fait, des aventures en fait sans un antagoniste, sans un méchant en fait qui va incarner le mal, mais avec des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches que je trouve vraiment intéressantes.
C'est tout en nuance.
Exactement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la nuance qui est importante dans Anders.
Je repose la question. Donc, est-ce que pourquoi ce refus du manichéisme de la part de Grégory?
Yes, it is a choice. I've decided that there's more to storytelling than to have a villain spoil things and then people having to fight to tell a story. And you know, there is a tradition of adventure stories being about overcoming a villain, and I just found it, you know, that you could tell a better story without that. It's like when there's a lot of swearing or something in a book, it's like, oh, you could...
Oui, alors je voulais pas retomber dans cette histoire de manichéisme. Je pense qu'on peut faire une histoire tout aussi belle, voire encore plus belle, sans forcément passer par ce modèle-là. Et voilà, pour moi, c'est important.
Et l'écriture aussi, les dialogues sont destinés aux enfants. Cela permet d'apprendre aussi à lire et à comprendre aussi, à philosopher peut-être même.
It's more about recognizing that there are quiet times in the world, and an adventure can be based in, you know, kindness and nature, and it doesn't have to be.
Alors effectivement, c'est un petit peu philosophique de ce point de vue. Moi, je pense qu'on peut faire des histoires d'aventure, donc sans qu'il y ait de méchants ou de gentils, et juste faire des histoires sur la générosité, la gentillesse, la nature, ça suffit à faire des belles histoires d'aventure.
Est-ce que le langage des enfants est-il universel? C'est-à-dire, cette écriture, lors de sa création, était rédigée en anglais. Il a fallu la traduction en français. Gauthier, est-ce que tu es intervenu dans la traduction pour donner un sens similaire à la traduction?
Bien sûr, je ne vais pas trahir ce qu'a écrit Grégory en anglais. Il y a des points de traduction où ça nécessite en fait une adaptation plus qu'une traduction, d'autant plus qu'on est dans la BD, il y a de l'oralité. Mais à chaque fois, en fait, quand je m'écarte un peu du texte original, je lui demande une validation par mail. Donc en fait, je lui explique en fait ce que ça veut dire en français, s'il est d'accord ou pas. C'est arrivé aussi que je revienne sur mes pas parce qu'il m'explique, ah non, ma vision en fait de cette expression, c'était... Mais non, je rajoute rien à sa très belle écriture.
Grégory MacKay, Anders et la montagne, c'est le cinquième épisode de l'existence de Anders. Est-ce qu'on peut y suivre son évolution, sa maturité aussi?
There is an evolution. There's a number of characters that come and go from the book. And the discovery in book one.
Il y a une évolution dans la suite de ces livres, parce qu'il y a des entrées et des sorties, des irruptions donc de personnages différents. Et donc en suivant l'évolution de ces lectures, on en apprend davantage sur la psychologie de ces personnages, mais on peut aussi également les lire indépendamment sans problème.
Grégory, de quoi vous nourrissez-vous justement pour établir ce dialogue? C'est votre expérience personnelle ou alors vous avez des inspirations littéraires?
It is a lot to do with my personal experience as a kid. I always thought that, you know, stopping to sort of notice the day-to-day life of being a kid was really important. And yeah, I always thought I was writing about myself with Anders, but really I was the Bernie character much more than Anders, and I think I wanted to be...
Oui, alors je me base beaucoup sur mon expérience personnelle, celle de moi en tant qu'enfant, et du fait que j'aurais voulu être un personnage comme Anders, avoir cette gentillesse, avoir ces caractéristiques-là.
Est-ce à dire que plus tard, Anders pourrait être auteur de bande dessinée?
Yeah, he writes comics in one of the episodes. He also makes a lot of things.
Ah oui, bien sûr, il pourrait être un écrivain de bande dessinée. D'ailleurs, il y a un des livres dans lequel il dessine une bande dessinée. Et ce qui est assez fascinant, c'est d'imaginer ce personnage grandir et rentrer progressivement dans le monde adulte et de voir à quel point, en fait, il peut devenir un auteur de bande dessinée professionnel.
D'ailleurs, vous, Grégory, vous avez commencé très tôt à dessiner.
Yes, I did, and I started drawing comics very young.
Oui, alors je dessine depuis mon plus jeune âge, parce que moi j'étais un garçon un peu solitaire, donc le dessin ça répondait bien un petit peu à cette solitude que j'avais avec moi, et j'étais toujours très influencé par des bandes dessinées australiennes, anglaises, mais aussi bien Astérix et Obélix ou Blake et Mortimer.
Et donc la bande dessinée, c'est un chemin que vous avez croisé très tôt, au point de dessiner. Et puis vous avez eu donc cette formation au Victorian College of the Arts of Melbourne. Et cela vous a assis sur cette profession. Cela conforté dans...
No, it did not. I had to very much draw comics on the side and do the work of the art school as the main thing.
Alors cette formation, ça m'a pas trop aidé en fait, parce que on reste sur des modèles très classiques. Moi, j'essayais de continuer à dessiner de côté, donc c'est vraiment mes dessins d'à côté qui faisaient ma personne, et c'était pas réellement accepté par l'établissement.
Il y a aussi ce graphisme. Est-ce que il y a une influence de l'art contemporain, peut-être même dans son motif?
Yeah, yes, with things like abstraction, not so much contemporary, but impressionistic abstraction, which was a very important part of Australian painting history.
Alors oui, j'ai été beaucoup influencé par l'art abstrait plutôt que l'art contemporain, l'art abstrait, voire impressionniste, par cette recherche de la simplicité dans le trait pour raconter une histoire complexe.
Je me tourne vers Gauthier par rapport au monde de la bande dessinée. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à celui de l'Australie? Est-ce qu'il y a des auteurs importants? Et ou alors est-ce qu'il y a un certain classicisme, comme suggéré ce que propose son école d'art à Melbourne?
Alors justement, non. Je pense que l'influence scolaire, on la ressent pas dans la production australienne. Déjà, pour répondre à ça, si je m'y suis intéressé, la rencontre avec le travail de Grégory, elle est le fruit du hasard. Donc, c'était dans une librairie à Amsterdam. Lui avait déposé son fanzine lors d'un voyage, un échange scolaire en fait en Europe. Et moi, en fait, lors d'un voyage à Amsterdam, je me suis arrêté par cette librairie où j'ai trouvé son fanzine. Donc c'est comme ça que le contact s'est fait. Et après, Grégory m'a ouvert les portes en fait d'un petit réseau en fait à Melbourne où on a des artistes très très différents les uns des autres. Et en fait, certains sont pas nécessairement passés par une école d'art. On peut avoir des bandes dessinées qui tendent vers l'abstraction, des formes très expérimentales, presque, enfin, ouais, de la bande dessinée concrète, comme il peut y avoir de la musique concrète, des choses beaucoup plus influencées par le comics underground classique, enfin façon Crumb et compagnie. C'est le cas de Mandy Ord qu'on publie aussi. Et puis des gens comme Grégory McKay en fait qui ont diverses influences. Notamment en France, en fait, on connaît assez bien Simon Hanselman, qui est un auteur australien également. Mais un exemple aussi très connu d'auteur australien, c'est Sean Tan, qui a eu le prix du meilleur album à Angoulême il y a presque une vingtaine d'années, bientôt. Voilà. Et c'est assez marrant. C'est comme s'il y avait une sorte d'épicentre qui était Melbourne en Australie. Et qui a tiré, mais c'est aussi un peu la capitale des arts en Australie, c'est pour ça. Donc qui a tiré à elle en fait tout un petit réseau en fait d'artistes, pour la plupart alternatifs.
Le monde de la bande dessinée en France est très étendu hein, et très suivi. Est-ce qu'il est toujours grandissant cet intérêt du public pour la bande dessinée et permet aussi de produire des nouveautés, des propositions, des découvertes? Et je poserai la même question à Grégory pour l'Australie.
Alors en France, la BD se porte bien, hein. Enfin, si on veut juste parler en termes de chiffres, mais je trouve ça pas très intéressant. Enfin, en tout cas, on est le deuxième plus gros marché au monde après le Japon, mais à équivalence avec les États-Unis. En ce moment, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que la bande dessinée, elle s'empare de tous les sujets, absolument. Et par contre, moi, ce que je note, c'est qu'il y a une forme d'académisme, en fait, de nouvel académisme qui commence à s'installer. Et bien sûr, le défi quand on est éditeur, c'est de jamais répondre. Enfin, en fait, il y a des éditeurs qui s'accommoderont très bien d'un académisme, quel qu'il soit. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est toujours faire le pas de côté, trouver la forme nouvelle, surprenante et inattendue.
Et cet académisme, qu'est-ce qui le met en avant? C'est une certaine intolérance que l'on sent monter en France?
Peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a les peurs, mais en fait, il y a tout simplement un facteur humain qui fait qu'on va faire les choses les plus rassurantes. Enfin, et je dis « on », je m'inclus aussi, hein, il peut y avoir des trucs où en fait, on a tous une forme de conservatisme en soi. Et que du coup, aller tout le temps vers la nouveauté aussi, ça peut être parfois un peu effrayant.
Je pose la même question pour Grégory. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt accru, croissant du public australien pour la bande dessinée? Est-ce que cela permet justement une certaine liberté de vie d'exercer aussi?
Yes, there are, and there's a really amazing scene. For comics in Australia, it's gone beyond the underground comics, and there's very much an academic approach to record and, recognize the comics. These comics are very much.
Oui, alors c'est intéressant. Il y a un réel engouement pour la bande dessinée en Australie, ce qui était auparavant un peu marginal, qui était un peu underground, commence à apparaître maintenant dans les librairies officielles, dans les librairies de livres pour enfants. On peut commencer à avoir des comics aussi pour enfants qui n'apparaissaient pas auparavant. Il y a également maintenant des études sur la bande dessinée, comme quoi ça se démocratise vraiment. Les choses bougent.
C'est la même chose, Gauthier. On peut retrouver de la bande dessinée dans les institutions françaises, à l'adresse des enfants, par exemple.
Ouais, complètement. Bah, la bande dessinée, elle a infiltré toutes les... Nous sommes partout. Toutes les strates de la société française. Mais non, ça se porte très très bien en ce moment.
Alors actuellement, Grégory est en tournée hein, de présentation pour cet ouvrage et vous êtes donc à cheminer à travers la France pour cette présentation. Comment prend-il ça? Ça lui permet de visiter un peu le pays?
Déjà, la tournée, en fait, elle n'aurait pas tout à fait au travers de toute la France. Ce qui était prévu à la base, c'est que Grégory soit invité pour le festival d'Angoulême au moment de la sortie de son livre. Et pour des raisons techniques, son livre a été retardé et le festival d'Angoulême a été annulé. Donc, partant de là, en fait, c'est une tournée d'avant-première. C'est-à-dire que Anders et la montagne sortent d'abord en France, puis en Australie. En fait, les tomes d'Anders, ils sont saisonniers. C'est le tome de l'hiver, en fait, Anders et la montagne. Et comme en fait l'Australie est en hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc c'est pour ça aussi que... et puis parce qu'on est quand même des amis proches, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, que du coup on a l'exclusivité en France d'Anders et la montagne. Et la tournée, en fait, du coup, plutôt que de traverser la France pour aller à Angoulême, qui est quand même une ville très humide et éloignée, en fait, elle va surtout se baser sur une tournée au travers des Alpes. Forcément, en plus, c'est Anders et la montagne. Et puis, nous, on a un éditeur local. Et en plus de ça, la source, enfin, vraiment, l'étincelle initiale d'Anders et la montagne, ça part d'un voyage que Grégory a fait il y a 7 ans. Il était, en fait, il avait une résidence de 6 mois en France. Il est venu me voir juste avant de repartir en Australie. Et je l'ai emmené, en fait, à Tussac, à l'entrée du Vallon de Combeau, en plein hiver, on a marché dans la montagne avec toute cette neige partout. Et c'est ce qui a été le déclic en fait initial d'Anders et la montagne. Donc il y a vraiment une raison en fait de tourner localement aussi.
On revient un peu sur aussi ce festival d'Angoulême. Il y a eu ces scandales de gestion, de dureté de l'équipe dirigeante à l'adresse de ses employés et peut-être aussi des personnes qui y travaillent. Je ne sais pas précisément toute l'histoire, mais qu'est-ce que vous avez voulu dénoncer? J'ai vu que vous aviez rédigé un texte, une lettre, hein, pour exprimer votre désarroi.
Alors, effectivement, la lettre que tu as dû voir, en fait, elle était surtout rédigée par notre syndicat, mais bon, on y adhère complètement. C'est bien de repréciser les choses, parce que avant que tu dises que tu n'étais pas au courant de toute l'histoire, je trouvais que tes mots étaient un peu doux à l'égard de la direction du Festival d'Angoulême. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des malversations financières où le monde de la BD était au courant, mais assez impuissant, en fait, finalement, par rapport à ces gros enjeux depuis un bout de temps. Il y avait un management qu'on savait toxique. Moi, j'ai certains proches qui sont passés par la direction artistique du festival et qui sont ressortis complètement lessivés et qui travaillaient dans des conditions très dures. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au moment... en fait, il devait y avoir un renouvellement. C'est une association qui gère le festival, enfin, en fait, qui chapeaute le festival et qui laisse la gérance à une entreprise. Et au moment en fait, du renouvellement du bail de l'entreprise, il y a commencé à avoir un truc pas clair qui se passait. Donc il y a une journaliste, Lucie Servin, qui a enquêté en fait sur les coulisses du festival et là qui a découvert quelque chose qu'on ignorait. Donc c'est une ancienne salariée de cette équipe du FIBD qui a été violée donc pendant une soirée du festival par un employé d'un des partenaires du festival avec soumission chimique. Donc c'est-à-dire qu'elle s'est réveillée le lendemain, elle savait pas où elle était, ce qu'elle avait fait de sa soirée. Et quand elle a dénoncé ce viol, en fait, on lui a proposé de prendre une pilule le lendemain, ce qui n'était vraiment pas approprié. Mais qui plus est, en fait, elle n'a pas tardé à être licenciée pour officiellement s'être présentée alcoolisée sur une soirée du festival. C'est quelque chose qui est plus tolérable, en fait, qui a malheureusement été toléré par le passé, mais ces jours-là sont finis. Et nous, on voulait, nous, les éditeurs, mais éditeurs, éditrices et aussi auteurs, autrices, en tout cas les acteurs et actrices de la bande dessinée, on voulait marquer le coup, montrer que ça se ferait pas en notre nom, ça serait plus toléré en notre nom. Et voilà, c'était un geste fort parce que, du coup, tout bêtement, hein, mais là, on voit l'impact que ça a sur la venue d'un auteur depuis l'Australie, depuis l'autre bout du monde, pour un petit éditeur comme nous. Ça a aussi un impact sur la ville d'Angoulême qui en fait économiquement s'appuie aussi sur ce festival, la bande dessinée dans ses murs et tout ça. Mais j'espère qu'on aura montré que c'était possible de dire non à cette culture-là, cette culture du viol et du patriarcat.
Qu'en est-il de ce festival annulé cette année, mais quel est son avenir selon toi? Est-ce qu'il y a des discussions sur le sujet?
Il y a des discussions. Ce qui est toujours, ce que j'ai tendance à dire en ce moment, c'est qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Parce que quand même, l'air du temps est un peu pourri, donc qu'est-ce qu'on va avoir à la place? Il y a quand même eu des initiatives de remplacement. Pour la plupart quand même vraiment à remarquer, à souligner, notamment il y a eu un mouvement de boycott qui du coup vu les circonstances s'est appelé girlcott et donc c'est les femmes qui font de la BD qui ont pris le pouvoir et du coup alors nous on est deux mecs donc on s'est pas intégré au truc, mais voilà, notamment à Marseille il y a plein de choses qui vont se passer dans les jours qui viennent avec nos amies éditrices de même pas mal, leurs autrices, des intervenantes, notamment cette journaliste qui a dévoilé le scandale d'Angoulême. Donc non, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent aussi à Angoulême. Il y a plein d'initiatives et ça montre aussi que la bande dessinée est bien belle et bien vivante, indépendamment de toute structure aussi pourrie qu'elle puisse être.
Je me tourne vers Grégory. Est-ce qu'il y a un équivalent du festival de BD Angoulême en Australie?
We have a big comics festival in Perth, but mainly we have pop culture festivals which travel around, and comics, local comics, are a part of that. But it's the one in Perth. The name escapes me.
Alors il y a un festival, Perth Comics Art Festival, qui est un festival de bande dessinée plutôt académique. Donc rien de comparable avec ce qui peut se passer à Angoulême. Toutefois, il y a de nombreux autres festivals en Australie qui sont des festivals plutôt rattachés à la pop culture, qui sont des festivals un peu itinérants ou qui se trouvent dans plusieurs endroits du pays, où là, la bande dessinée a un rôle prépondérant au sein de ces événements.
Je reviens sur le terme académique. Qu'est-ce qu'on peut exprimer sur ce terme en bande dessinée? Est-ce que c'est un dessinateur qui a suivi énormément les cours de nu académique et d'anatomie? Et aussi l'important, il y a le dessin, mais il y a également le scénario. Est-ce que le scénario est académique aussi? Est-ce qu'il y a un académisme du scénario?
Comics in Australia have a long history, and it's often quite
Alors, il y a quand même une longue histoire de la bande dessinée en Australie, avec des auteurs qui sont très connus, d'autres complètement inconnus. Donc, ce qui est académique, c'est de maintenir une espèce d'histoire, de continuité dans l'histoire de l'évolution de cette bande dessinée. Mais une fois encore, penser à une bande dessinée, son écriture, son script, son dessin, ne relève pas tant de ce qui est académique. C'est ce qui, on peut plutôt parler de fracture, on va dire, entre ces différents protagonistes, soit issus de la vieille école, soit arrivant sur ce nouvel univers.
Gauthier, l'académisme en France, quel est-il? Est-ce qu'il a une persistance, une reconnaissance et une certaine pérennité?
Ah, complètement. Mais c'est marrant parce que quand tu posais la question à Grégory, je réfléchissais à une phrase de Jean-Christophe Menu, donc qui est quand même quelqu'un qui a révolutionné la BD en France. C'est le fondateur de la maison d'édition L'Association. Et dans un texte sur Baladi que tu recevais à ton micro il y a quelques mois de ça, il disait Baladi, en fait, il fait des BD qui sont pas des académismes. Il fait des BD qui sont des classiques. La nuance, elle est forte. En fait, l'académisme, pour moi, c'est une sorte de... c'est même pas un maniérisme, mais en tout cas, enfin, il y a une recette et on sait l'appliquer. Et en tout cas, il n'y a pas de prise de risque. Donc, c'est intéressant parce que tu vois, tout à l'heure, tu posais la question de savoir par rapport au dessin, par rapport au scénario. Des fois, en fait, le vrai académisme, il va se cacher dans l'espèce d'espace qui unit en fait le dessin et le scénario. Dans en fait la structure même de la bande dessinée. Et de toute façon, je pense que dès que tu fais une avancée dans un domaine artistique, cette avancée, elle va être rattrapée par un académisme à un moment donné, et qu'on peut pas y échapper. Et voilà, et je reviens en fait à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve que l'intérêt artistique en fait de la chose, de mon point de vue, en tout cas, c'est de trouver toujours ce pas de côté ou ce pas en avant. En tout cas, pas se faire rattraper par l'académisme.
Tu as devant toi aussi Créature sensible de Mandy Horde, que tu édites aussi. Tu souhaitais nous en parler?
Ouais, j'aimerais bien vous en parler. Parce qu'en fait, alors Mandy Horde, c'est aussi une autrice de Melbourne. Je pense aussi que ça serait bien d'entendre Grégory à son sujet. C'est le deuxième livre qu'on fait. Le premier, c'était Sur les toits, qu'on a sorti en 2021, qui était mon livre de chevet, enfin vraiment en fait un livre que j'ai adoré. C'est en fait Mandy, on a commencé à travailler avec elle dans notre ancienne revue Turkey Comics, qui a existé de 2002 à 2017. C'est Grégory qui nous a attiré l'attention vers le travail de Mandy. Et quand j'ai découvert Sur les toits, c'est vraiment devenu mon livre de chevet, et j'avais peur de faire un bide en fait en la publiant. Et puis c'est le passage de, bah, je parlais même pas mal de Chloé, même pas mal en fait en vacances à la maison, qui m'a dit non mais ce bouquin est génial, il faut absolument que quelqu'un le publie en France. Et du coup j'ai surmonté mes peurs et j'ai fait un bide. J'ai fait un bide, mais qui m'a pas empêché de continuer avec Mandy en publiant Créatures sensibles en français. C'est en fait un énorme recueil de 2002 à 2014 des travaux de Mandy. C'est que du noir et blanc. C'est assez intéressant parce qu'en fait, quand Grégory me parle de l'Australie, on sent un pays très dur. Le climat, la société, tout ça, c'est un pays très dur. Si je devais prendre un mot qui définisse aussi bien le travail et les personnalités de Grégory comme de Mandy, je dirais la gentillesse. C'est vraiment, en fait, c'est des gens qui sont d'une gentillesse. Enfin, et voilà, il y a une humanité qui transpire en fait de créatures sensibles qui me touche énormément. Voilà, et je suis très très content de la forme. Et puis on va en fait travailler avec une sérigraphe d'Iwaze pour faire un t-shirt avec la couverture de ce bouquin qui est super beau.
Grégory, alors peut-être connaissez-vous Mandy Horde?
Yes, I do. Many many years ago, maybe 30 years, I met Mandy. She was part of the camp.
Alors oui, je la connais depuis longtemps, depuis une trentaine d'années. Et on s'est croisés à plusieurs reprises en allant et en venant à des festivals d'auteurs. Et depuis qu'elle s'est installée à Melbourne, sa carrière a bien explosé. Et c'est vraiment une artiste exceptionnelle.
Gauthier, ces ouvrages de Grégory et Mandy seront aussi à découvrir ou à acheter à la librairie Mosaïque, par exemple?
Oui, alors pour des raisons techniques, alors les précédents Anders, on peut les trouver. Anders et la montagne et Créatures sensibles sortent officiellement le 20 février. Donc là, c'était vraiment une avant-première de l'avant-première mondiale. Et on les trouve chez Mosaïque, on les trouve aussi à l'entrepôt chez François, qui est un sacré animateur de la vie culturelle d'Iwaze et qu'il faut absolument soutenir.
Et puis il y a aussi donc le site internet de The Uchi Kuchi, hein, avec son catalogue et les moyens de se les procurer.
Oui, exactement.
Eh bien, Gauthier et Grégory, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps. Hein.
Merci Yves et merci Ismo.
Merci, thank you very much.
Et merci aussi Ismo et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Yeah, all right.
Goodbye.
Goodbye. Thank you.
Thank you.